Chapitre 5. Entièrement consacré au compte rendu complet et fidèle du mémorable procès de Bardell contre Pickwick. Je voudrais bien savoir ce que le chef du jury peut avoir mangé ce matin à son déjeuner, dit M. Snodgrass par manière de conversation dans la mémorable matinée du 14 février. Ah, répondit M. Perker, j'espère qu'il a fait un bon déjeuner. Pourquoi cela ? Demanda M. Pickwick. C'est fort important, extrêmement important, mon cher monsieur. Un bon jury satisfait, qui a bien déjeuné, est une chose capitale pour nous. Des jurés mécontents ou affamés sont toujours pour le plaignant. Au nom du ciel, dit M. Pickwick d'un air de complète stupéfaction, quelle est la cause de tout cela ? Ma foi, je n'en sais rien, dit froidement le petit homme. C'est pour aller plus vite, je suppose. Quand le jury s'est retiré dans la chambre des délibérations, si l'heure du dîner est proche, le chef des jurés tire sa montre et dit « Juste ciel, gentlemen, déjà 5h10 et je dîne à 5h. »« Moi aussi, » disent tous les autres, excepté deux individus qui auraient dû dîner à 3h et qui en conséquence sont encore plus pressés de sortir. Le chef des jurés sourit et remet sa montre. « Eh bien, gentlemen, qu'est-ce que nous disons ? Le plaignant ou le défendant, gentlemen ? Je suis disposé à croire, quant à moi, mais que cela ne vous influence pas, je suis assez disposé à croire que le plaignant a raison. » Là-dessus, deux ou trois autres jurés ne manquent pas de dire qu'ils le croient aussi, comme c'est naturel. Et alors, ils font leur affaire unanimement et confortablement. 9h10, continua le petit homme en regardant à sa montre. Il est grandement temps de partir, mon cher monsieur. La cour est ordinairement pleine quand il s'agit d'une violation de promesse de mariage. Vous ferez bien de demander une voiture, mon cher monsieur, ou nous arriverons trop tard. Monsieur Pickwick tira immédiatement la sonnette. Une voiture fut amenée et les quatre Pickwickiens y étant montés avec Monsieur Perker, se firent conduire à Guildhall. Sam Weller, M. Lawton et le sac bleu contenant la procédure suivaient dans un cabriolet. « Lawton, dit Perker quand ils eurent atteint la salle des pas perdus, mettez les amis de M. Pickwick dans la tribune des stagiaires. M. Pickwick lui-même sera mieux auprès de moi. »« Par ici, mon cher monsieur, par ici !» En parlant de la sorte, le petit homme prit M. Pickwick par la manche et le conduisit vers un siège peu élevé, situé au-dessous du bureau du conseil du roi. De là, les avoués peuvent commodément chuchoter, dans l'oreille des avocats, les instructions que la marche du procès rend nécessaires. Ils y sont d'ailleurs invisibles au plus grand nombre des spectateurs, car ils sont assis beaucoup plus bas que les avocats et que les jurés, dont les sièges dominent le parquet. Naturellement, ils leur tournent le dos et regardent le juge. « Voici la tribune des témoins, je suppose, » dit M. Pickwick en montrant à sa gauche une espèce de chaire entourée d'une balustrade de cuivre. « Oui, mon cher monsieur, » répliqua Perker en extrayant une grande quantité de papier du sac bleu que Lawton venait de déposer à ses pieds. Et là, dit M. Pickwick en indiquant sur sa droite une couple de bancs enfermés d'une balustrade. « Là siègent les jurés, n'est-il pas vrai ?»« Précisément, » répondit Perker en tapant sur le couvercle de sa tabatière. Ainsi renseigné, M. Pickwick se tint debout dans un état de grande agitation et promena ses regards sur la salle. Il y avait déjà dans la galerie un flot assez épais de spectateurs et sur le siège des avocats, une nombreuse collection de gentlemen en perruque dont la réunion présentait cette étonnante et agréable variété de nez et de favoris pour laquelle le barreau anglais est si justement célèbre. Parmi ces gentlemen, ceux qui possédaient un dossier le tenaient de la manière la plus visible possible et, de temps en temps, s'en frottaient le menton pour convaincre davantage les spectateurs de la réalité de ce fait. Quelques-uns de ceux qui n'avaient aucun dossier à montrer, portaient sous leurs bras de bons gros inoctavos reliés en basane fauve à titre rouge. D'autres, qui n'avaient ni diplôme ni livre, fourraient leurs mains dans leurs poches et prenaient un air aussi important qu'ils le pouvaient, sans s'incommoder. Tandis que d'autres encore allaient et venaient avec une mine suffisante et affairée, satisfaits d'éveiller, de la sorte, l'admiration des étrangers non initiés. Enfin, au grand étonnement de M. Pickwick, ils étaient tous divisés en petits groupes et causaient des nouvelles du jour, avec la tranquillité la plus parfaite, comme s'il n'avait jamais été question de jugement. Un salut de M. Funkay, lorsqu'il entra pour prendre sa place derrière le banc réservé au Conseil du Roi, attira l'attention de M. Pickwick. À peine lui avait-il rendu sa politesse, lorsque Maître Snubbin parut, suivi par M. Mallard, qui déposa sur la table un immense sac cramoisi, donna une poignée de main à M. Perker et se retira. Ensuite entrèrent deux ou trois autres avocats, et parmi eux, un homme au teint rubicon qui fit un signe de tête amical à Maître Snubbin et lui dit que la matinée était belle. « Quel est cet homme rubicon qui vient de saluer notre conseil et de lui dire que la matinée est belle ?» demanda tout bas M. Pickwick à son avoué. « C'est Maître Buzfuzz, l'avocat de notre adversaire. Ce gentleman placé derrière lui est M. Skimpin, son junior. » M. Pickwick, rempli d'horreur, en apprenant la froide scélératesse de cet homme, allait demander comment Maître Buzfuzz, qui était l'avocat de son adverse parti, osait se permettre de dire à son propre avocat qu'il faisait une belle matinée, quand il fut interrompu par un long cri de « Silence !» que poussèrent les officiers de la cour et au bruit duquel se levèrent tous les avocats. M. Pickwick se retourna, et s'aperçut que ce tumulte était causé par l'entrée du juge. Monsieur le juge Sterley, qui siégeait en l'absence du chef justice, empêché par indisposition, était un homme remarquablement court et si gros qu'il semblait tout visage et tout gilet. Il roula dans la salle sur deux petites jambes cagneuses et, ayant salué gravement le barreau, qui le salua gravement à son tour, il mit ses deux petites jambes sous la table et son petit chapeau à trois cornes dessus. Lorsque M. le juge Sterley eut fait cela, tout ce qu'on pouvait voir de lui, c'était deux petits yeux fort drôles, une large face écarlate et environ la moitié d'une grande perruque très comique. Aussitôt que le juge eut pris son siège, l'huissier qui se tenait debout sur le parquet de la cour cria « Silence !» d'un ton de commandement. Un autre huissier dans la galerie répéta immédiatement « Silence !» d'une voix colérique, et trois ou quatre autres huissiers lui répondirent avec indignation « Silence !» Ceci étant accompli, un gentleman en noir, assis au-dessous du juge, appela les noms des jurés. Après beaucoup de hurlements, on découvrit qu'il n'y avait que 10 jurés spéciaux qui fussent présents. Maître Buzfuzz ayant alors demandé que le jury spécial fût complété par des Tails Quails, le gentleman en noir s'empara immédiatement de deux jurés ordinaires, à savoir un apothicaire et un épicier. « Gentlemen, dit l'homme en noir, répondez à votre nom pour prêter le serment. Richard Upwich. Voilà, répondit l'épicier. Thomas Groffin. Présent, dit l'apothicaire. « Prenez le livre, gentlemen. Vous jugerez fidèlement et loyalement. » « Je demande pardon à la cour, » interrompit l'apothicaire, qui était grand, maigre et jaune, « mais j'espère que la cour ne m'obligera pas à siéger. » « Et pourquoi cela, monsieur ?» dit le juge Sterley. « Je n'ai pas de garçon, milord, » répondit l'apothicaire. « Je n'y peux rien, monsieur. Vous devriez en avoir un. » « Je n'en ai pas le moyen, milord. »« Eh bien, monsieur, vous devriez en avoir le moyen, » rétorqua le juge en devenant rouge, car son tempérament frisait l'irritable et ne supportait point la contradiction. « Je sais que je devrais en avoir le moyen si je prospérais comme je le mérite, mais je ne l'ai pas, milord. » « Faites prêter serment au gentleman, » reprit le juge d'un ton péremptoire. l'officier n'avait pas été plus loin que le « Vous jugerez fidèlement et loyalement » quand il fut encore interrompu par l'apothicaire. « Est-ce qu'il faut que je prête serment, milord ? » demanda-t-il. « Certainement, monsieur, » répliqua l'entêté petit juge. « Très bien, milord, » fit l'apothicaire d'un air résigné. « Il y aura mort d'homme avant que le jugement soit rendu, voilà tout. Faites-moi prêter serment si vous voulez, monsieur. » Et l'apothicaire prêta serment avant que le juge eût pu trouver une parole à prononcer. « Milord, » reprit l'apothicaire en s'asseyant fort tranquillement, « je voulais seulement vous faire observer que je n'ai laissé qu'un galopin dans ma boutique. C'est un charmant bonhomme, milord, mais qui se connaît fort peu en drogue. Et je sais que, dans son idée, sel d'Epsom veut dire acide prussique et sirop d'ipecacuanha, laudanum. Voilà tout, milord. » Ayant prononcé ces mots, l'apothicaire s'arrangea commodément sur son siège, prit un visage aimable et parut préparé à tout événement. Monsieur Pickwick le considérait avec le sentiment de la plus profonde horreur lorsqu'une légère sensation se fit remarquer dans la cour. Madame Bardell, supportée par Madame Cluppins, fut amenée et placée dans un état d'accablement pitoyable à l'autre bout du banc qu'occupait Monsieur Pickwick. Un énorme parapluie fut alors apporté par Monsieur Dodson et une paire de socques par Monsieur Fogg, qui, tous les deux, avaient préparé pour cette occasion leurs visages les plus sympathiques et les plus compatissants. Madame Sanders parut ensuite, conduisant Master Bardell. À la vue de son enfant, la tendre mère tressaillit, revint à elle et l'embrassa avec des transports frénétiques. Puis, retombant dans un état d'imbécilité hystérique, la bonne dame demanda à ses amis où elle était. En répliquant à cette question, Madame Cluppins et Madame Sanders détournèrent la tête et se prirent à pleurer, tandis que messieurs Dodson et Fogg suppliaient la plaignante de se tranquilliser. Maître Busfuzz frotta ses yeux de toutes ses forces avec un mouchoir blanc et jeta vers le jury un regard qui semblait faire appel à son humanité. Le juge était visiblement affecté et plusieurs des spectateurs toussèrent pour cacher leur émotion. « Une très bonne idée, » murmura Perker à M. Pickwick. « Dodson et Fogg sont d'habiles gens. « Voilà une scène d'un excellent effet, mon cher monsieur, d'un excellent effet. » Pendant que Perker parlait, Madame Bardell revenait lentement à elle et Madame Cluppins, après avoir soigneusement examiné les boutons de Master Bardell et leurs boutonnières respectives, le plaçait sur le parquet de la cour devant sa mère. Position avantageuse où il ne pouvait manquer d'éveiller la commisération des jurés et du juge. Cependant, cela ne s'était pas fait sans une opposition considérable de la part du jeune gentleman lui-même, car il n'était pas éloigné de croire que ce fût là une formalité légale, après laquelle on le condamnerait à une exécution immédiate ou à la transportation au-delà des mers pour le reste de ses jours, tout au moins. « Bardell et Pickwick !» cria le gentleman en noir, appelant la cause qui se trouvait la première sur la liste. « Milord, » dit Maître Busfuzz, « je suis pour la plaignante. »« Avec qui êtes-vous, Maître Busfuzz ?» demanda le juge. Monsieur Skimpin salua pour exprimer que c'était avec lui. « Je parais pour le défendeur, Milord, » dit à son tour Maître Snubbin. « Il y a quelqu'un avec vous, Maître Snubbin ?» reprit le juge. « Monsieur Funkai, Milord. » « Maître Busfuzz et Maître Skimpin pour la plaignante, » dit le juge en écrivant les noms sur son livre de notes et en articulant ce qu'il écrivait. « Pour le défendeur, Maître Snubbin et Monsieur Tronquet. Je demande pardon à votre seigneurie, Funkai. » « Oh, très bien, » dit le juge, « je n'avais jamais eu le plaisir d'entendre le nom de monsieur. » Ici, Monsieur Funkai salua et sourit, et le juge salua et sourit aussi. Et alors M. Funkai, rougissant jusqu'au blanc des yeux, s'efforça d'avoir l'air d'ignorer que tout le monde le regardait, chose qui n'a jamais réussi jusqu'à présent à personne et qui, suivant toute probabilité, ne réussira en aucun temps. « Procédons, » dit le juge. Les huissiers crièrent de nouveau « Silence !» et M. Skimpin exposa l'affaire. Mais lorsqu'elle fut exposée, l'audience n'en fut guère plus avancée, car l'avocat avait soigneusement gardé pour lui-même les particularités qu'il savait. Et quand il se rassit, au bout de 3 minutes, la religion du jury était précisément aussi éclairée qu'auparavant. Maître Busfus se leva alors, avec toute la dignité qu'exigeait la nature de sa cause, chuchota avec Dodson, conféra brièvement avec Fogg, tira sa robe sur ses épaules, arrangea sa perruque et s'adressa au jury. Il commença par dire que jamais, dans le cours de sa carrière, jamais depuis le premier moment où il s'était appliqué à l'étude des lois, il ne s'était approché d'une cause avec des sentiments d'émotion aussi profonde, avec la conscience d'une aussi pesante responsabilité. Responsabilité, pouvait-il dire, qu'il n'aurait jamais voulu assumer s'il n'avait pas été soutenu par la conviction, assez forte pour équivaloir à une certitude, par la conviction que la cause de la justice, ou, en d'autres termes, la cause de sa cliente abusée, innocente et persécutée, devait prévaloir auprès des 12 gentlemen intelligents, nobles et généreux qu'il voyait assis en face de lui. Les avocats commencent toujours de cette manière, parce que cela rend les jurés contents d'eux-mêmes en leur faisant croire qu'ils doivent être des personnages bien difficiles à tromper. Un effet visible fut produit immédiatement et plusieurs jurés commencèrent à prendre avec activité de volumineuses notes. « Gentlemen, vous avez appris de mon savant ami, » poursuivit Maître Busfus, « quoiqu'il sût très bien que les gentlemen du jury n'avaient rien appris du tout du savant ami en question. Vous avez appris de mon savant ami que ceci est une action pour violation de promesses de mariage dans laquelle les dommages demandés sont de 1 500 livres sterling. Mais vous n'avez pas appris de mon savant ami, attendu que cela n'entrait pas dans les attributions de mon savant ami, quels sont les faits et les circonstances de la cause. Ces faits et ces circonstances, gentlemen, vous allez les entendre détaillés par moi et prouvés par les véridiques dames que je placerai devant vous dans cette tribune. » Ici, Maître Busfus, avec une terrible emphase sur le mot « tribune », frappa sa table d'un poing majestueux en regardant Dodson et Fogg. Ceux-ci firent un signe d'admiration pour l'avocat, d'indignation et de défi pour le défendeur. « La plaignante, gentlemen, » continua Maître Busfus d'une voix douce et mélancolique, « la plaignante est une veuve. Oui, gentlemen, une veuve. » Feu M. Bardell, après avoir joui pendant beaucoup d'années de l'estime et de la confiance de son souverain, comme l'un des gardiens de ses revenus royaux, s'éloigna presque imperceptiblement de ce monde pour aller chercher ailleurs le repos et la paix que la douane ne peut jamais accorder. À cette poétique description du décès de M. Bardell, qui avait eu la tête cassée d'un coup de pinte dans une rixe de taverne, la voix du savant avocat trembla et s'éteignit un instant. Il continua avec grande émotion. Quelque temps avant sa mort, il avait imprimé sa ressemblance sur le front d'un petit garçon. Avec ce petit garçon, seul gage de l'amour du défunt douanier, Madame Bardell se cacha au monde et rechercha la tranquillité de la rue Goswell. Là, elle plaça à la croisée de son parloir un écriteau manuscrit portant cette inscription « Appartement de garçon à louer en garni, s'adresser au rez-de-chaussée ». Ici, Maître Busfus fit une pause tandis que plusieurs gentlemen du jury prenaient note de ce document. « Est-ce qu'il n'y a point de date à cette pièce ?» demanda un juré. « Non, monsieur, il n'y a point de date, » répondit l'avocat. « Mais je suis autorisé à déclarer que cet écriteau fut mis à la fenêtre de la plaignante il y a justement 3 années. J'appelle l'attention du jury sur les termes de ce document. Appartement de garçon à louer en garni. Messieurs, l'opinion que Madame Bardel s'était formée de l'autre sexe était dérivée d'une longue contemplation des qualités inestimables de l'époux qu'elle avait perdu. Elle n'avait pas de crainte, elle n'avait pas de méfiance, elle n'avait pas de soupçon. Elle était tout abandon et toute confiance. « Monsieur Bardel, disait la veuve, Monsieur Bardel était autrefois garçon. C'est à un garçon que je demanderai protection, assistance, consolation. C'est dans un garçon que je verrai éternellement quelque chose qui me rappellera ce qu'était Monsieur Bardel quand il gagna mes jeunes et vierges affections. C'est à un garçon que je louerai mon appartement. » Entraînée par cette belle et touchante inspiration, l'une des plus belles inspirations de notre imparfaite nature, gentlemen, la veuve solitaire et désolée sécha ses larmes, meubla son premier étage, serra son innocente progéniture sur son sein maternel et mit à la fenêtre de son parloir l'écriteau que vous connaissez. Y resta-t-il longtemps? Non. Le serpent était aux aguets, la mèche était allumée, la mine était préparée, le sapeur et le mineur étaient à l'ouvrage. L'écriteau n'avait pas été 3 jours à la fenêtre du parloir. 3 jours, gentlemen! Quand un être qui marchait sur 2 jambes et qui ressemblait extérieurement à un homme et non point à un monstre frappa à la porte de Madame Bardel. Il s'adressa au rez-de-chaussée. Il loua le logement et le lendemain, il s'y installa. Cet être était Pickwick, Pickwick le défendeur. Maître Buzfuzz avait parlé avec tant de volubilité que son visage en était devenu absolument cramoisi. Il s'arrêta ici pour reprendre haleine. Le silence réveilla M. le juge Starlight, qui immédiatement écrivit quelque chose avec une plume où il n'y avait pas d'encre et prit un air extraordinairement réfléchi afin de faire croire au jury qu'il pensait toujours plus profondément quand il avait les yeux fermés. Maître Buzfuzz continua. « Je dirai peu de choses de cet homme. Le sujet présente peu de charme et je n'aurai pas plus de plaisir que vous, gentlemen, à m'étendre complaisamment sur son égoïsme révoltant, sur sa scélératesse systématique. » En entendant ces mots, M. Pickwick, qui, depuis quelques instants, écrivait en silence, tressaillit violemment, comme si quelque vague idée d'attaquer Maître Buzfuzz sous les yeux même de la justice s'était présentée à son esprit. Un geste monitoire de M. Perker le retint, et il écouta le reste du discours du savant gentleman avec un air d'indignation qui contrastait complètement avec le visage admirateur de mesdames Cluppins et Sanders. « Je dis scélératesse systématique, gentlemen, » continua l'avocat en regardant M. Pickwick et en s'adressant directement à lui. « Et quand je dis scélératesse systématique, permettez-moi d'avertir le défendeur, s'il est dans cette salle, comme je suis informé qu'il y est, qu'il aurait agi plus décemment, plus convenablement, avec plus de jugement et de bon goût, s'il s'était abstenu d'y paraître. Laissez-moi l'avertir, messieurs, que s'il se permettait quelques gestes de désapprobation dans cette enceinte, vous sauriez les apprécier et lui en tenir un compte rigoureux. Et laissez-moi lui dire, en outre, comme Milord vous le dira, gentlemen, qu'un avocat qui remplit son devoir envers ses clients ne doit être ni intimidé, ni menacé, ni maltraité, et que toute tentative pour commettre l'un ou l'autre de ces actes retombera sur la tête du machinateur, qu'il soit demandeur ou défendeur, que son nom soit Pickwick, ou Knox, ou Stonks, ou Styles, ou Brown, ou Thompson. Cette petite digression du sujet principal amena nécessairement le résultat désiré de tourner tous les yeux sur M. Pickwick. Maître Buzfuzz, s'étant partiellement remis de l'état d'élévation morale où il s'était fouetté, continua plus posément. « Je vous prouverai, gentlemen, que pendant 2 années, Pickwick continua de rester constamment et sans interruption, sans intermission, dans la maison de la dame Bardell. Je vous prouverai que, durant tout ce temps, la dame Bardell le servit, s'occupa de ses besoins, fit cuire ses repas, donna son linge à la blanchisseuse, le reçut, le raccommoda et jouit enfin de toute la confiance de son locataire. Je vous prouverai que, dans beaucoup d'occasions, il donna à son petit garçon des demi-pences et même, dans quelques occasions, des pièces de 6 pences. Je vous prouverai aussi, par la déposition d'un témoin qu'il sera impossible à mon savant ami de récuser ou d'infirmer, je vous prouverai, dis-je, qu'une fois il caressa le petit bonhomme sur la tête et, après lui avoir demandé s'il avait gagné récemment beaucoup de billes et de calots, se servit de ces expressions remarquables « Seriez-vous bien content d'avoir un autre père ?» Je vous prouverai en outre, gentlemen, qu'il y a environ 1 an, Pickwick commença tout à coup à s'absenter de la maison durant de longs intervalles, comme s'il avait eu l'intention de se séparer graduellement de ma cliente. Mais je vous ferai voir aussi qu'à cette époque, sa résolution n'était pas assez forte, ou que ses bons sentiments prirent le dessus, s'il a de bons sentiments, ou que les charmes et les accomplissements de ma cliente l'emportèrent sur ses intentions inhumaines. Car je vous prouverai qu'en revenant d'un voyage, il lui fit positivement des offres de mariage, après avoir pris soin toutefois qu'il ne pût y avoir aucun témoin de leur contrat solennel. Cependant, je suis en état de vous prouver, d'après le témoignage de 3 de ses amis, qui déposeront bien malgré eux, gentlemen, que dans cette même matinée, il fut découvert par eux, tenant la plaignante dans ses bras et calmant son agitation par des douceurs et des caresses. Une impression visible fut produite sur les auditeurs par cette partie du discours du savant avocat. Tirant de son sac 2 petits chiffons de papier, il continua. « Et maintenant, gentlemen, un seul mot de plus. Nous avons heureusement retrouvé 2 lettres que le défendeur confesse être de lui et qui disent des volumes. Ces lettres dévoilent le caractère de l'homme. Elles ne sont point écrites dans un langage ouvert, éloquent, fervent, respirant le parfum d'une tendresse passionnée. Non, elles sont pleines de précautions, de ruses, de mots couverts, mais qui, heureusement, sont bien plus concluantes que si elles contenaient les expressions les plus brûlantes, les plus poétiques images. Lettres qui doivent être examinées avec un œil soupçonneux, lettres qui étaient destinées par Pickwick à dérouter les tiers entre les mains desquelles elles pouvaient tomber. Je vais vous lire la première, gentlemen. Garraway, midi. Chère Mistress B, côtelettes de mouton et sauce aux tomates. Tout à vous, Pickwick. Côtelettes de mouton, juste ciel et sauce aux tomates. Gentlemen, le bonheur d'une femme sensible et confiante devra-t-il être à jamais détruit par ces vils artifices? La lettre suivante n'a point de date, ce qui, par soi-même, est déjà suspect. Chère Madame B, je n'arriverai à la maison que demain matin. La voiture est en retard. Et ensuite viennent ces expressions très remarquables. Ne vous tourmentez point pour la bassinoire. La bassinoire. Eh, messieurs, qui donc se tourmente pour une bassinoire? Quand est-ce que la paix d'un homme ou d'une femme a été troublée par une bassinoire? Par une bassinoire qui est en elle-même un meuble domestique, innocent, utile, et j'ajouterai même commode. Pourquoi Madame Bardell est-elle si chaleureusement suppliée de ne point s'affliger pour la bassie noire. À moins, comme il n'y a pas l'ombre d'un doute, que ce mot ne serve de couvercle à un feu caché, qu'il ne soit l'équivalent de quelque expression caressante, de quelque promesse flatteuse, le tout déguisé par un système de correspondance énigmatique artificieusement imaginé par Pickwick dans le dessein de préparer sa lâche trahison et qui, effectivement, est resté indéchiffrable pour tout le monde. Ensuite, que signifient ces paroles ? La voiture est en retard. Je ne serais point étonné qu'elles s'appliquassent à Pickwick lui-même, qui, incontestablement, a été bien criminellement en retard durant toute cette affaire, mais dont la vitesse sera inopinément accélérée et dont les roues, comme il s'en apercevra à son dame, seront incessamment graissées par vous-même, gentlemen. » Maître Buzfeuille s'arrêta à cet endroit pour voir si le jury souriait à cette plaisanterie. Mais personne ne l'ayant comprise, excepté l'épicier, dont l'intelligence sur ce sujet provenait probablement de ce qu'il avait soumis dans la matinée même son chariot au procédé en question, le savant avocat jugea convenable, pour finir, de retomber encore dans le lugubre. « Assez de ceci, gentlemen. Il est difficile de sourire avec un cœur déchiré. Il est mal de plaisanter quand nos plus profondes sympathies sont éveillées. L'avenir de ma cliente est perdu, et ce n'est pas une figure de rhétorique de dire que sa maison est vide. L'écriteau n'est pas mis, et pourtant il n'y a point de locataire. Des célibataires estimables passent et repassent dans la rue Goswell, mais il n'y a pas pour eux d'invitation à s'adresser au rez-de-chaussée. Tout est sombre et silencieux dans la demeure de Madame Bardell. La voix même de l'enfant ne s'y fait plus entendre. Ses jeux innocents sont abandonnés, car sa mère gémit et se désespère. Ses agates et ses billes sont négligées. Il n'entend plus le cri familier de ses camarades. Pas de tricherie. Il a perdu l'habileté dont il faisait preuve au jeu de pair ou impair. Cependant, gentlemen, Pickwick, l'infâme destructeur de cette oasis domestique qui verdoyait dans le désert de Goswell Street, Pickwick qui se présente devant vous aujourd'hui avec son infernale sauce aux tomates et son ignoble bassie noire. Pickwick lève encore devant vous son front d'airain et contemple avec férocité la ruine dont il est l'auteur. Des dommages, gentlemen, de forts dommages sont la seule punition que vous puissiez lui infliger, la seule consolation que vous puissiez offrir à ma cliente. Et c'est dans cet espoir qu'elle fait, en ce moment, un appel à l'intelligence, à l'esprit élevé, à la sympathie, à la conscience, à la justice, à la grandeur d'âme d'un jury composé de ses plus honorables concitoyens. Après cette belle péroraison, Maître Buzfeuille s'assit et M. le juge Starley s'éveilla. « Appelez Elisabeth Cluppins, » dit l'avocat en se relevant au bout d'une minute avec une nouvelle vigueur. L'huissier le plus proche appela « Elisabeth Cluppins ». Un autre, à une petite distance, demanda « Elisabeth Sutkins ». Et un troisième, enfin, se précipita dans King Street et beugla « Elisabeth Funtwin !» jusqu'à ce qu'il fût enroué. Pendant ce temps, Madame Cluppins, avec l'assistance combinée de Mesdames Bardell et Sanders, de M. Dodson et de M. Fogg, était conduite vers la tribune des témoins. Lorsqu'elle fut heureusement juchée sur la marche d'en haut, Madame Bardell se plaça debout sur celle d'en bas, tenant d'une main le mouchoir et les socques de son amie, de l'autre une bouteille de verre qui pouvait contenir environ un quart de pinte de sel de vinaigre afin d'être prête à tout événement. Madame Sanders, dont les yeux étaient attentivement fixés sur le visage du juge, se planta près de Madame Bardell, tenant de la main gauche le grand parapluie et appuyant d'un air déterminé son pouce droit sur le ressort, comme pour faire voir qu'elle était prête à l'ouvrir au plus léger signal. « Madame Kluppins, dit maître Busfuss, je vous en prie, madame, tranquillisez-vous. » Bien entendu qu'à cette invitation, Madame Kluppins se prit à sangloter avec une nouvelle violence et donna des marques si alarmantes de sensibilité qu'elle semblait à chaque instant prête à s'évanouir. Cependant, après quelques questions peu importantes, maître Busfuss lui dit « Vous rappelez-vous, Madame Kluppins, vous êtes trouvée dans la chambre du fond, au premier étage, chez Madame Bardell, dans une certaine matinée de juillet, tandis qu'elle époussetait l'appartement de Monsieur Pickwick ?»«
Oui, milord et messieurs du jury, » répondit Madame Kluppins.
« La chambre de Monsieur Pickwick était au premier, sur le devant, je pense. »«
Oui, monsieur. »
« Que faisiez-vous dans la chambre de derrière, madame ?» demanda le petit juge.
« Milords et messieurs !» s'écria Madame
Kluppins avec une agitation intéressante.
« Je ne veux pas vous tromper !»«
Vous ferez bien, madame !» lui dit le petit juge.
« Je me trouvais là à l'insu de Madame Bardell. J'étais sortie avec un petit panier, messieurs, pour acheter 3 livres de vitelote qui m'ont bien coûté 2 pence et demi. » quand je vois la porte de la rue de Madame Bardell entre-bâillée.
« Entre quoi ? » s'écria le petit juge.
« À moitié ouverte, milord, » dit maître Snubbin.
« Elle a dit entre-bâillée, » fit observer le petit juge d'un air plaisant.
« C'est la même chose, milord, » reprit l'illustre avocat.
Le petit juge le regarda dubitativement et dit qu'il en tiendrait note. Madame Kluppins continua.
« Je suis entrée, gentlemen, juste pour dire bonjour, et je suis montée les escaliers d'une manière pacifique, et je suis pénétrée dans la chambre de derrière, et
vous avez écouté, je pense, Madame Kluppins, dit maître Busfuss.
« Je vous demande excuse, monsieur, répliqua Madame Kluppins d'un air majestueux. J'en mépriserai l'action. Les voix étaient très élevées, monsieur, et se forcèrent sur mon oreille.
Très bien, vous n'écoutiez pas, mais vous entendiez les voix. Une de ces voix était-elle celle de monsieur Pickwick ?
Oui, monsieur.
Madame Kluppins, après avoir déclaré distinctement que monsieur Pickwick s'adressait à madame Bardell, répéta lentement et en réponse à de nombreuses questions la conversation que nos lecteurs connaissent déjà. Maître Busfuss sourit en s'asseyant et les jurés prirent un air soupçonneux. Mais leur physionomie devint absolument menaçante lorsque maître Snubbin déclara qu'il ne contre-examinerait pas le témoin parce que M. Pickwick croyait devoir convenir que son récit était exact en substance. Madame Kluppins, ayant une fois brisé la glace, jugea que l'occasion était favorable pour faire une courte dissertation sur ses propres affaires domestiques. Elle commença donc par informer la cour qu'elle était au moment actuel mère de 8 enfants et qu'elle entretenait l'espérance d'en présenter un 9e à M. Kluppins dans environ 6 mois. Malheureusement, dans cet endroit instructif, le petit juge l'interrompit très colériquement et, par suite de cette interruption, la vertueuse dame et Madame Sanders furent poliment conduites hors de la salle sous l'escorte de M. Jackson sans autre forme de procès. « Nathaniel Winkle, » dit M. Skippin. « Présent, » répondit M. Winkle d'une voix faible. Puis il entra dans la tribune des témoins et, après avoir prêté serment, salua le juge avec une grande déférence. « Ne vous tournez pas vers moi, monsieur !» lui dit aigrement le juge en réponse à son salut. « Regardez le jury !» Monsieur Winkle obéit avec empressement à cet ordre et se tourna vers la place où il supposait que le jury devait être, car dans l'état de confusion où il se trouvait, il était tout à fait incapable de voir quelque chose.
M. Skipping s'occupa alors de l'examiner. C'était un jeune homme de 42 ou 43 ans qui promettait beaucoup et qui était nécessairement fort désireux de confondre, autant qu'il le pourrait, un témoin notoirement prédisposé en faveur de l'autre partie. Maintenant, monsieur, aurez-vous la bonté de faire connaître votre nom à sa seigneurie et au jury ? Dit M. Skipping, en inclinant la tête de côté pour écouter la réponse, et pour jeter en même temps au jury un coup d'œil qui semblait indiquer que le goût naturel de M. Winkle pour le parjure pourrait bien l'induire à déclarer un autre nom que le sien. « Winkle, » répondit le témoin. « Quel est votre nom de baptême, monsieur ?» demanda le petit juge d'un ton courroucé. « Nathaniel, monsieur. »« Daniel, vous n'avez pas d'autre prénom ?»« Nathaniel, monsieur. » « Milord, je veux dire. »« Nathaniel Daniel ou Daniel Nathaniel ?»« Non, Milord, seulement Nathaniel, point Daniel. »« Allons, monsieur, pourquoi donc m'avez-vous dit Daniel ?»«
Je ne l'ai pas dit, Milord. »«
Vous l'avez dit, monsieur, » rétorqua le juge avec un austère froncement de sourcils. « Pourquoi aurais-je écrit Daniel dans mes notes si vous ne me l'aviez pas dit, monsieur ?» Cet argument était évidemment sans réplique.
« Monsieur Winkle a la mémoire assez courte, Milord, » interrompit M. Kimping en jetant un autre coup d'œil au jury. « Mais j'espère que nous trouverons moyen de la lui rafraîchir. »«
Je vous conseille de faire attention, monsieur, » dit le petit juge au témoin en le regardant d'un air sinistre. Le pauvre M. Winkle salua et s'efforça de feindre une tranquillité dont il était bien loin, ce qui, dans son état de perplexité, lui donnait précisément l'air d'un filou pris sur le fait.
« Maintenant, Monsieur Winkle, » reprit Monsieur Skimping, « écoutez-moi avec attention, s'il vous plaît, et laissez-moi vous recommander dans votre propre intérêt de ne point oublier les injonctions de Milord. N'êtes-vous pas ami intime de Monsieur Pickwick, le défendeur ?
Autant que je puisse me le rappeler en ce moment, je connais M. Pickwick depuis près de...
Monsieur, n'éludez pas la question. Êtes-vous, oui ou non, ami intime du défendeur ?
J'allais justement vous dire que...
Voulez-vous, oui ou non, répondre à ma question, monsieur ?
Si vous ne répondez pas à la question, je vous ferai incarcérer, monsieur, s'écria le petit juge en regardant par-dessus ses notes.
« Allons, monsieur, oui ou non, s'il vous plaît ?» répéta M. Skimping.
« Oui, je le suis, » dit enfin M. Winkle.
« Ah, vous l'êtes. Et pourquoi n'avez-vous pas voulu le dire du premier coup, monsieur ? Vous connaissez peut-être aussi la plaignante, n'est-ce pas, M. Winkle ?»«
Je ne la connais pas, mais je l'ai vue. »«
Oh, vous ne la connaissez pas, mais vous l'avez vue ?»
« Maintenant, ayez la bonté de dire à messieurs les jurés ce que vous entendez par cette distinction, monsieur Winkle. »«
J'entends que je ne suis pas intime avec elle, mais que je l'ai vue quand j'allais chez monsieur Pickwick dans Goswell Street. »«
Combien de fois l'avez-vous vue, monsieur ?»«
Combien de fois ?»«
Oui, monsieur, combien de fois ? Je vous répéterai cette question tant que vous le désirerez, monsieur. »
Et le savant gentleman, après avoir froncé sévèrement les sourcils, plaça ses mains sur ses hanches et sourit au juré d'un air soupçonneux. Sur cette question, s'éleva les défiantes controverses ordinaires en pareil cas. D'abord, M. Winkle déclara qu'il lui était absolument impossible de préciser combien de fois il avait vu Mme Bardell. Alors on lui demanda s'il avait vu 20 fois. À quoi il répondit « Certainement plus que cela. » S'il l'avait vu 100 fois, s'il pouvait jurer de l'avoir vu plus de 50 fois, s'il n'était pas certain de l'avoir vu au moins 75 fois, et ainsi de suite. À la fin, on arriva à cette conclusion satisfaisante qu'il ferait bien de prendre garde à lui et à ses réponses. Le témoin ayant été réduit de la sorte à l'état désiré de susceptibilité nerveuse, l'interrogatoire fut continué ainsi qu'il suit.
« Monsieur Winkle, vous rappelez-vous avoir été chez le défendeur Pickwick dans l'appartement de la plaignante rue Goswell une certaine matinée de juillet ?»«
Oui, je me le rappelle. »
« Étiez-vous accompagné, dans cette occasion, par un ami du nom de Tuckman et par un autre du nom de Snodgrass ?»«
Oui, monsieur. »«
Sont-ils ici ?»«
Oui, ils y sont, » répondit monsieur Winkle en regardant avec inquiétude l'endroit où étaient placés ses amis.
« Je vous en prie, monsieur Winkle, occupez-vous de moi et ne pensez pas à vos amis, » reprit monsieur Skimpin, en jetant au jury un autre coup d'œil expressif. « Il faudra qu'ils racontent leur histoire sans avoir de consultation préalable avec vous s'ils n'en ont pas eu déjà. » Autre regard au jury.
« Maintenant, monsieur, dites à messieurs les jurés ce que vous vîtes en entrant dans la chambre du défendeur le jour en question. Allons, monsieur, accouchez donc. Il faut que nous le sachions tôt ou tard. »
Le défendeur, M. Pickwick, tenait la plaignante dans ses bras, ayant ses mains autour de sa taille, répliqua M. Winkle avec une hésitation bien naturelle. Et la plaignante paraissait être évanouie.
« Avez-vous entendu le défendeur dire quelque chose ?»«
Je l'ai entendu appeler Mme Bardell une bonne âme et l'engager à se calmer, en lui représentant dans quelle situation on les trouverait s'il survenait quelqu'un ou quelque chose comme cela.
« Maintenant, monsieur Winkle, je n'ai plus qu'une question à vous faire, et je vous prie de vous rappeler l'avertissement de Milord. Voulez-vous affirmer sous serment que monsieur Pickwick, le défendeur, n'a pas dit dans l'occasion en question « Ma chère madame Bardell, vous êtes une bonne âme. Habituez-vous à cette situation. » « Un jour, vous y viendrez, même devant quelqu'un, ou quelque chose comme cela. »«
Je ne l'ai certainement pas compris ainsi, » dit M. Winkle, étonné de l'ingénieuse explication donnée au petit nombre de paroles qu'il avait entendues. « J'étais sur l'escalier et je n'ai pas pu entendre distinctement. L'impression qui m'est restée est que... »«
Ah !» interrompit M. Skimpin. « Les gentlemen du jury n'ont pas besoin de vos impressions qui, je le crains, ne satisferaient guère des personnes honnêtes et franches. Vous étiez sur l'escalier et vous n'avez pas entendu distinctement. Mais vous ne voulez pas jurer que M. Pickwick ne se soit pas servi des expressions que je viens de citer. Vous ai-je bien compris ?»«
Non, je ne peux pas le jurer, » répliqua M. Winkle, et M. Skimpin s'assit d'un air triomphant. Jusque-là, la cause de M. Pickwick n'avait pas marché d'une manière tellement heureuse qu'elle fût en état de supporter le poids de nouveaux soupçons, mais comme on pouvait désirer de la placer sous un meilleur jour s'il était possible, M. Funkay se leva afin de tirer quelque chose d'important de M. Winkle dans un contre-examen. On va voir tout à l'heure s'il en tire en effet quelque chose d'important.
« Je crois, monsieur Winkle, lui dit-il, que monsieur Pickwick n'est plus un jeune homme. »«
Oh non, répondit monsieur Winkle, il est assez âgé pour être mon père. »«
Vous avez dit à mon savant ami que vous connaissiez monsieur Pickwick depuis longtemps. Avez-vous jamais eu quelque raison de supposer qu'il était sur le point de se marier ?»
« Oh non, certainement non !» répliqua M. Winkle avec tant d'empressement que M. Funkay aurait dû le tirer de la tribune le plus promptement possible. « Les praticiens tiennent qu'il y a deux espèces de témoins particulièrement dangereux, le témoin qui rechigne et le témoin qui a trop de bonne volonté. Ce fut la destinée de M. Winkle de figurer de ces deux manières dans la cause de son ami. »
J'irai même plus loin que ceci, continua M. Funkay, de l'air le moins satisfait et le plus confiant.
Avez-vous jamais vu dans les manières de M. Pickwick envers l'autre sexe quelque chose qui ait pu vous induire à croire qu'il ne serait pas éloigné de renoncer à la vie d'un vieux garçon ?
Oh non, certainement non.
Dans ses rapports avec les dames, sa conduite n'a-t-elle pas toujours été celle d'un homme qui, ayant atteint un âge avancé,
satisfait de ses propres amusements et de ses occupations, les traite toujours comme un père traite ses filles ?»«
Il n'y a pas le moindre doute à cela, » répliqua M. Winkle dans la plénitude de son cœur.
« C'est-à-dire, oui, oh oui, certainement. »
Vous n'avez jamais remarqué dans sa conduite envers Madame Bardell ou envers toute autre femme rien qui fût le moins du monde suspect, ajouta M. Funkay en se préparant à s'asseoir, car Maître Snubbin lui faisait signe du coin de l'œil.
Mais non, non, répondit M. Winkle, excepté dans une légère circonstance qui, j'en suis sûr, pourrait être facilement expliquée.
Cette déplorable confession n'aurait pas été arrachée aux témoins, sans aucun doute, si le malheureux M. Funkay s'était assis quand Maître Snubbin lui avait fait signe, ou si Maître Busfuzz avait arrêté dès le début ce contre-examen irrégulier. Mais il s'était bien gardé de le faire, car il avait remarqué l'anxiété de M. Winkle et avait habilement conclu que sa cliente en tirerait quelque profit. Au moment où ces paroles malencontreuses tombèrent des lèvres du témoin, M. Funkay s'assit à la fin et Maître Snubbin s'empressa, peut-être un peu trop, de dire au témoin de quitter la tribune. M. Winkle s'y préparait avec grande satisfaction quand Maître Busfuzz l'arrêta.
« Attendez, M. Winkle, attendez !» lui dit-il.
Puis, s'adressant au petit juge, « Votre seigneurie veut-elle avoir la bonté de demander au témoin en quelles circonstances ce gentleman, qui est assez vieux pour être son père, s'est comporté d'une manière suspecte envers des femmes ?»«
Monsieur, » dit le juge en se tournant vers le misérable et désespéré témoin, « vous entendez la question du savant avocat. Décrivez la circonstance à laquelle vous avez fait allusion. »«
Milord, » répondit M. Winkle d'une voix tremblante d'anxiété. « Je désirerais me taire à cet égard. »«
C'est possible, » rétorqua le petit juge, « mais il faut parler. »
Parmi le profond silence de toute l'assemblée, M. Winkle balbutia que la légère circonstance suspecte était que M. Pickwick avait été trouvé à minuit dans la chambre à coucher d'une dame, ce qui s'était terminé, à ce que croyait M. Winkle, par la rupture du mariage projeté de la dame en question, et ce qui avait amené, comme il le savait fort bien, la comparution forcée des Pickwickiens devant George Nupkins, esquire, magistrat et juge de paix du bourg d'Ipswich.
« Vous pouvez quitter la tribune, monsieur, » dit alors Maître Snubbin.
M. Winkle la quitta en effet, et se précipita en courant comme un fou vers son hôtel où il fut découvert par le garçon au bout de quelques heures, la tête ensevelie sous les coussins d'un sofa et poussant des gémissements qui fendaient le cœur. Tracy Tupman et Augustus Snodgrass furent successivement appelés à la tribune. L'un et l'autre corroborèrent la déposition de leur malheureux ami et chacun d'eux fut presque réduit au désespoir par d'insidieuses questions. Susanna Sanders fut ensuite appelée, examinée par Maître Busfuzz et contre-examinée par Maître Snubbin. Elle avait toujours dit et cru que M. Pickwick épouserait Madame Bardell. Elle savait qu'après l'évanouissement de juillet, le futur mariage de M. Pickwick et de Mistress Bardell avait été le sujet ordinaire des conversations du voisinage. Elle l'avait entendu dire à Mistress Mudbury, la revendeuse, et à la repasseuse, Mistress Bunkin. Mais elle ne voyait dans la salle ni Mistress Mudbury, ni Mistress Bunkin. Elle avait entendu M. Pickwick demander au petit garçon s'il aimerait à avoir un autre père. Elle ne savait pas si Madame Bardell faisait société avec le boulanger, mais elle savait que le boulanger était alors garçon et est maintenant marié. Elle ne pouvait pas jurer que Madame Bardell ne fût pas très éprise du boulanger, mais elle imaginait que le boulanger n'était pas très épris de Madame Bardell, car dans ce cas, il n'aurait pas épousé une autre personne. Elle pensait que Madame Bardell s'était évanouie dans la matinée du mois de juillet parce que M. Pickwick lui avait demandé de fixer le jour. Elle savait qu'elle-même avait tout à fait perdu connaissance quand M. Sanders lui avait demandé de fixer le jour,
et elle pensait que toute personne qui peut s'appeler une lady en ferait autant en semblables circonstances. Enfin, elle avait entendu la question adressée par M. Pickwick au petit Bardell relativement aux billes et aux calots, mais sur sa foi de chrétienne, elle ne savait pas quelle différence il y avait entre une bille et un calot. Interrogée par M. le juge Starleith, Mistress Sanders répondit que, pendant que M. Sanders lui faisait la cour, elle avait reçu de lui des lettres d'amour comme font les autres ladies. Que, dans le cours de leur correspondance, M. Sanders l'avait appelée très souvent mon canard, mais jamais ma côtelette ou ma sauce aux tomates. M. Sanders aimait passionnément le canard. Peut-être que s'il avait autant aimé la côtelette et la sauce aux tomates, il en aurait employé le nom comme un terme d'affection. Après cette déposition capitale, Maître Busfuss se leva, avec plus d'importance qu'il n'en avait déjà montré, et dit d'une voix forte « Appelez Samuel Weller !» Il était tout à fait inutile d'appeler Samuel Weller, car Samuel Weller monta lentement dans la tribune au moment où son nom fut prononcé. Il posa son chapeau sur le plancher, ses bras sur la balustrade, et examina la cour à vol d'oiseau, avec un air remarquablement gracieux et jovial. « Quel est votre nom, monsieur ?» demanda le juge. « Sam Weller, milord, » répliqua ce gentleman. « L'écrivez-vous avec un V ou avec un W ?»«
Ça dépend du goût et de la fantaisie de celui qui écrit, milord. Je n'ai eu cette occasion qu'une fois ou deux dans ma vie, mais je l'écris avec un V. »
Ici, on entendit dans la galerie une voix qui criait « C'est bien ça, Samivelle, c'est bien ça! Mettez un V, milord !»«
Qui est-ce qui se permet d'apostropher la cour ?» s'écria le petit juge en levant les yeux.
« Huissier !»«
Oui, milord. Amenez cette personne ici, sur le champ. »«
Oui, milord. »
Mais comme l'huissier ne put trouver la personne, il ne l'amena pas, et après une grande commotion, tous les assistants qui s'étaient levés pour regarder le coupable se rassirent. Aussitôt que l'indignation du petit juge lui permit de parler, il se tourna vers le témoin et lui dit
« Savez-vous qui c'était, monsieur ?»«
Je suspecte un brin que c'était mon père, milord. » »«
Le voyez-vous maintenant ?»«
Non, je ne le vois pas, milord, » répliqua Sam en attachant ses yeux à la lanterne par laquelle la salle était éclairée.
« Si vous aviez pu me le montrer, je l'aurais fait empoigner sur le champ, » reprit l'irascible petit juge.
Sam fit un salut plein de reconnaissance et se retourna vers Maître Busfuss avec son air de bonne humeur imperturbable.
« Maintenant, Monsieur Weller, » dit Maître Busfuss. « Voilà, monsieur, » répliqua Sam. « Vous êtes, je crois, au service de Monsieur Pickwick, le défendeur en cette cause. » « Parlez, s'il vous plaît, Monsieur Weller. »«
Oui, monsieur, je vais parler. Je suis au service de ce gentleman ici, et c'est un très bon service. »«
Pas grand-chose à faire et beaucoup à gagner, je suppose, » dit l'avocat d'un air farceur.
« Oh oui, suffisamment à gagner, monsieur, » comme disait le soldat quand on le condamna à 150 coups de fouet.
« Nous n'avons pas besoin de ce qu'a dit le soldat, monsieur, ni toute autre personne, » interrompit le juge.
« Très bien, milord. »
« Vous rappelez-vous, » dit Maître Busfuss en reprenant la parole, « vous rappelez-vous quelque chose de remarquable qui arriva dans la matinée où vous fûtes engagé par le défendeur ?»«
Voyons, monsieur Weller. » »«
Oui, monsieur. » »«
Ayez la bonté de dire au jury ce que c'était. »
J'ai eu un habillement complet tout neuf ce matin-là, messieurs du jury, et c'était une circonstance très remarquable pour moi dans ce temps-là. »
Ces mots excitèrent un éclat de rire général, mais le petit juge, regardant avec colère par-dessus son bureau,
« Monsieur, dit-il, je vous engage à prendre garde. »
C'est ce que Monsieur Pickwick m'a dit dans le temps, milord, et j'ai bien pris garde à conserver ces habits-là. « Véritablement, milord. »
Pendant deux grandes minutes, le juge regarda sévèrement le visage de Sam, mais voyant que ses traits étaient complètement calmes et sereins, il ne dit rien et fit signe à l'avocat de continuer.
«
Est-ce que vous prétendez me dire, monsieur Wheeler, reprit maître Buzfuzz en croisant ses bras emphatiquement et en se tournant à demi vers le jury, comme pour l'assurer silencieusement qu'il viendrait à bout du témoin, est-ce que vous prétendez me dire, monsieur Wheeler, que vous n'avez pas vu la plaignante évanouie dans les bras du défendeur, comme vous venez de l'entendre décrire par les témoins ?
Non, certainement. J'étais dans le corridor jusqu'à ce qu'ils m'ont appelé, et la vieille lady était partie alors.
Maintenant, faites attention, monsieur Wheeler, continua maître Buzfuzz en trempant une énorme plume dans son encrier, afin d'effrayer Sam en lui faisant voir qu'il allait noter sa réponse.
Vous étiez dans le corridor et vous n'avez rien vu de ce qui se passait ?
Avez-vous des yeux, monsieur Wheeler ?
Oui, j'en ai des yeux, et c'est justement pour ça. Si c'était des microscopes au gaz, brevetés pour grossir 100 000 millions de fois, j'aurais peut-être pu voir à travers les escaliers et la porte de chêne. Mais comme j'ai que des yeux, vous comprenez, ma vision est limitée.
À cette réponse, qui fut délivrée de la manière la plus simple et sans la plus légère apparence d'irritation, les spectateurs ricanèrent, le petit juge sourit, et maître Buzfuzz eut l'air singulièrement déconfit. Après une courte consultation avec Dodson et Fogg, le savant avocat se tourna de nouveau vers Sam et lui dit avec un pénible effort pour cacher sa vexation.
« Maintenant, monsieur Wheeler, je vous ferai encore une question sur un autre point, s'il vous plaît. »«
Je suis à vos ordres, monsieur, » répondit Sam avec une admirable bonne humeur.
« Vous rappelez-vous être allé chez Madame Bardell un soir de novembre ?»«
Oh oui, très bien !»«
Ah ah, vous vous rappelez cela, monsieur Wheeler ?» dit l'avocat en recouvrant son équanimité. « Je pensais bien que nous arriverions à quelque chose à la fin. »«
Je le pensais bien aussi, monsieur, » répliqua Sam.
Et les spectateurs rirent encore.
« Bien, je suppose que vous y êtes allé pour causer un peu du procès. » « Eh, monsieur Wheeler !»
reprit l'avocat en lançant un coup d'œil malin au jury.
« J'y suis allé pour payer le terme, mais nous avons causé un brin du procès. »«
Ah, vous en avez causé !» répéta maître Buzfuzz, dont le visage devint radieux par l'anticipation de quelque importante découverte. « Voulez-vous avoir la bonté de nous raconter ce qui s'est dit à ce propos, monsieur Wheeler ?»
« Avec le plus grand plaisir du monde, monsieur. Après quelques observations guère importantes des deux respectables dames qui ont déposé ici aujourd'hui, elles se sont quasi pâmées d'admiration sur la vertueuse conduite de messieurs Dodson et Fogg, ces deux gentlemen qui sont assis à côté de vous maintenant. » Ceci, bien entendu, attira l'attention générale sur Dodson et Fogg, qui prirent un air aussi vertueux que possible.
« Ah !» dit maître Buzfuzz, « ces dames parlèrent donc avec éloge de l'honorable conduite de messieurs Dodson et Fogg, les avoués de la plaignante, hein ?»«
Oui, monsieur, elles dirent que c'était une bien généreuse chose de leur part de prendre cette affaire-là par spéculation et de ne rien demander pour les frais s'ils ne les faisaient pas payer à monsieur Pickwick. » À cette réplique inattendue, les spectateurs ricanèrent encore, et Dodson et Fogg, qui étaient devenus tout rouges, se penchèrent vers maître Buzfuzz et, d'un air très empressé, lui chuchotèrent quelque chose dans l'oreille.
« Vous avez complètement raison, » répondit tout haut l'avocat, avec une tranquillité affectée. « Il est parfaitement impossible de tirer quelque éclaircissement de l'impénétrable stupidité du témoin. Je n'abuserai point des moments de la cour en lui adressant d'autres questions. »
« Vous pouvez descendre, monsieur. »«
Il n'y a pas quelque autre gentleman qui désire m'adresser une question ?» demanda Sam en prenant son chapeau et en regardant autour de lui d'un air délibéré.
« Non, pas moi, monsieur Wheeler. Je vous remercie, » dit maître Snubbin en riant.
« Vous pouvez descendre, monsieur, » répéta maître Buzfuzz en agitant la main d'un air impatient.
Sam descendit en conséquence, après avoir fait à la cause de messieurs Dodson et Fogg autant de mal qu'il le pouvait, sans inconvénient,
et après avoir parlé le moins possible de l'affaire de M. Pickwick, ce qui était précisément le but qu'il s'était proposé.
Milord, dit Maître Snubbin, si cela peut épargner l'interrogatoire d'autres témoins, je n'ai pas d'objection à admettre que M. Pickwick s'est retiré des affaires et possède une fortune indépendante et considérable.
Très bien, répliqua Maître Buzfuzz en passant au clerc les deux lettres de M. Pickwick.
Maître Snubbin s'adressa alors au jury en faveur du défendeur et débita un très long et très emphatique discours dans lequel il donna à la conduite et aux mœurs de M. Pickwick les plus magnifiques éloges. Mais comme nos lecteurs doivent s'être formés relativement au mérite de ce gentleman une opinion beaucoup plus nette que celle de M. Snubbin, nous ne croyons pas devoir rapporter longuement ses observations. Il s'efforça de démontrer que les lettres qui avaient été produites se rapportaient simplement au dîner de M. Pickwick et aux préparations à faire dans son appartement pour le recevoir à son retour de quelque excursion. Enfin, il parla le mieux qu'il put en faveur de notre héros et, comme tout le monde le sait, sur la foi d'un vieil adage, il est impossible de faire plus. Monsieur le juge Starlight fit son résumé suivant les formes et de la manière la plus approuvée. Il lut au jury autant de ses notes qu'il lui fut possible d'en déchiffrer en si peu de temps et fit en passant des commentaires sur chaque témoignage. Si Mistress Bardell avait raison, il était parfaitement évident que M. Pickwick avait tort. Si les jurés pensaient que le témoignage de Mistress Cluppins était digne de croyance, c'était leur devoir de le croire. Mais sinon, non. S'ils étaient convaincus qu'il y avait eu violation de la promesse de mariage, ils devaient attribuer à la plaignante les dommages-intérêts qu'ils jugeraient convenables. Mais, de notre côté, s'il leur paraissait qu'il n'y eût jamais eu de promesse de mariage, alors ils devaient renvoyer le défenseur sans aucun dommage. Après cette harangue, les jurés se retirèrent dans leur salle pour délibérer, et le juge se retira dans son cabinet pour se rafraîchir avec une côtelette de mouton et un verre de xérès. Un quart d'heure plein d'anxiété s'écoula. Le jury revint. On alla quérir le juge. M. Pickwick mit ses lunettes et contempla le chef du jury avec un cœur palpitant et une contenance agitée.
« Gentlemen, dit l'individu en noir, êtes-vous tous d'accord sur votre verdict ?»«
Oui, nous sommes d'accord, répondit le chef du jury.
« Décidez-vous en faveur de la plaignante ou du défendeur, gentlemen ?»«
En faveur de la plaignante. »
« Avec quel dommage, gentlemen ?»«
750 livres sterling. »
M. Pickwick ôta ses lunettes, en essuya soigneusement les verres, les renferma dans leur étui et les introduisit dans sa poche. Ensuite, ayant mis ses gants avec exactitude, tout en continuant de considérer le chef du jury, il suivit machinalement hors de la salle M. Perker et le sac bleu. M. Perker s'arrêta dans une salle voisine pour payer les honoraires de la cour. Là, M. Pickwick fut rejoint par ses amis, et là aussi, il rencontra M. Dodson et Fogg, se frottant les mains avec tous les signes extérieurs d'une vive satisfaction.
« Eh bien, gentlemen, dit M. Pickwick.
« Eh bien, monsieur, dit Dodson pour lui et son partenaire.
« Vous vous imaginez que vous allez empocher vos frais, n'est-ce pas, gentlemen ?»
Fogg répondit qu'il regardait cela comme assez probable et Dodson sourit en disant qu'ils essaieraient.
« Vous pouvez essayer et essayer et essayer encore, messieurs Dodson et Fogg, s'écria M. Pickwick avec véhémence. « Mais vous ne tirerez jamais de moi un penny de dommages ni de frais quand je devrais passer le reste de mon existence dans une prison pour dettes. »
« Ah ah !» dit Dodson, « vous y repenserez avant le prochain terme, Monsieur Pickwick. »«
Hi, 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 nous verrons cela incessamment, Monsieur Pickwick !» ricana Monsieur Fogg.
Muet d'indignation, Monsieur Pickwick se laissa entraîner par son avoué et par ses amis, qui le firent monter dans une voiture, amené en un clin d'œil par l'attentif Sam Weller. Sam avait relevé le marchepied et il se préparait à sauter sur le siège quand il sentit toucher légèrement son épaule. « Il se retourna et vit son père, debout devant lui. Le visage du vieux gentleman avait une expression lugubre. Il secoua gravement la tête et dit d'un ton de remontrance. « Je savais ce qu'arriverait de cette manière-là de conduire l'affaire. Oh, Sammy, Sammy, pourquoi qu'ils ne se sont pas servis d'une alibi ?